Cela fait maintenant quasiment un mois qu'a eu lieu la WWDC, la grande conférence d'Apple, pendant laquelle Tim Cook et Savant ont présenté les futurs systèmes qui arriveront en septembre. Une QV 2020 sous le signe de l'uniformisation, étant donné que toutes les plateformes vont adopter la nouvelle interface Liquid Glass. Celle-ci divise, certains y voyant un joli renouvellement, là où d'autres ont critiqué un manque de lisibilité. Ces nouveaux systèmes vont également ajouter un paquet de nouvelles fonctions. L'app téléphone est maintenant disponible sur iPad et sur Mac, tandis qu'iOS a gagné une app jeu et aperçu. Le Vision Pro n'a pas été oublié avec l'arrivée de nouveaux widgets restant ancrés dans le monde réel. De son côté, l'Apple Watch accueille une nouvelle interface pour exercice. Alors que les premières bêtas publiques ne devraient plus tarder de pointer le bout de leur nez, vous vous demandez sans doute ce que valent ces nouveaux systèmes. On fait le point dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Florian qui a installé les bêtas dès leur mise en ligne sur son MacBook Air M3 flambant neuf. Salut Florian.
Bonjour.
Et je suis également avec Baptiste Dajon, créateur de la iOS Bandbright, travaillant pour la branche tech de Decathlon. Salut Baptiste.
Hello.
Alors Baptiste, toi t'étais à Cupertino cette année pour la WWDC. C'était comment? Qu'est-ce que t'as pensé de cette édition 2025?
Alors moi c'était ma première dub. C'était vraiment impressionnant. C'est un peu le pèlerinage pour un fan comme moi. C'était la communauté française est très active, donc on était assez bien organisés ensemble pour faire la veille des activités, récupérer le badge, etc. Donc pour le dérouler, c'était le dimanche One Infinite Loop avec la récupération du badge. Donc là, c'était un peu une garden party où tous les développeurs se rencontrent et on prend le temps de discuter. Et le lendemain, c'est la keynote dans Apple Park. Donc on a pris bien les devants, on est arrivé à 6h30 du matin. Pour une ouverture des portes à 8h et la keynote à 10h. Ouais. Et c'était très impressionnant de voir le nombre de développeurs s'empiler dans la file d'attente pour arriver aux 1000 personnes présentes, quoi.
Ok, et ça se déroule après sur plusieurs jours? T'es resté combien de temps, toi?
Donc moi, j'ai atterri le samedi pour repartir le mardi soir, donc j'ai fait un truc très express pour des raisons perso le mercredi suivant. Du coup, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, j'ai pas eu le temps de m'adapter au jet lag de la Californie non plus. Ouais. Donc voilà, j'étais en semi-jet lag, mais ça m'a permis de passer mes nuits à creuser les nouveautés et de pouvoir poser les bonnes questions aux ateliers, etc. Donc c'était plutôt pas mal.
Ok, bah cool. Florian, toi tu n'étais pas à la WWDC, mais ça t'a pas empêché de télécharger les bêtas. Qu'est-ce que tu penses de Liquid Glass pour le moment?
Bon, on verra ce qu'en dit Baptiste, peut-être que je me trompe complètement. Je suis un peu circonspect, je trouve que ça marche peut-être mieux sur le téléphone que sur l'ordinateur. Ouais. Ça rappelle l'époque d'Aqua où il y avait des questions de visibilité, de lisibilité des contenus qui s'étaient posés à l'époque, parce que là, avec Aqua, donc c'était le premier macOS 10, ils avaient vraiment mis le paquet où on avait beaucoup de transparence, beaucoup de couleurs. Là, c'était un changement radical par rapport au précédent macOS. Et on avait dans les toute première bêta, par exemple des menus qui étaient très transparents, qui avaient en plus des barres grisées parce que ça rappelait un petit peu une partie du design des iMac. Donc un fond transparent, des barres grisées, le texte par-dessus, puis dessous, le fond qu'il y avait dessous. Donc c'était quasiment illisible. Et puis ça a été amélioré, et puis toutes ces transparences ont petit à petit disparu, enfin les interfaces ont évolué. Et là on retrouve un peu ces mêmes problématiques. On a déjà vu qu'entre les deux bêta qui sont sortis, il y a dans le centre de contrôle sur iOS, ils ont opacifié un peu plus certains fonds, parce que c'était on avait sa grille d'icônes du menu d'accueil, et puis on avait les icônes du centre de contrôle, et c'était illisible. Et c'est un petit peu le truc, c'est que alors c'est toujours difficile de parler d'en parler à ce stade-là, parce que on est en bêta, il y a des fonctions, enfin ou des représentations d'icônes, enfin des représentations graphiques dont on ne sait pas si elles sont arrêtées, ou ils disent voilà, on a trouvé la bonne dose à notre goût, ça bougera pas, ou là ça va encore bouger, là c'est pas fini, il y a des petites choses, je les trouve un peu bizarres, mais est-ce que c'est encore en cours? Est-ce que c'est fini? Donc voilà, on critique quelque chose qui est assez potentiellement mouvant. Mais il y a quand même des endroits où, sur Mac, je trouve que c'est un peu agressif. Je pense par exemple aux fenêtres du Finder ou les fenêtres de Safari où il y a des rangées avec les boutons en haut. Il y a des gros effets d'ombrage dessous pour les faire ressortir. Et je trouve que ça... On envoie ça un petit peu dans la figure de l'utilisateur, et quand on compare avec les macOS l'année dernière, tout bêtement, alors c'était beaucoup plus fin, mais il y avait ce côté un peu plus... les choses étaient beaucoup plus séparées, beaucoup plus distinctes les unes des autres. Là, parfois, c'est un peu laborieux, toujours avec ces histoires de transparence où Et je me force un petit peu, par exemple, à utiliser les icônes transparentes, puisque c'est un des modes sur iOS. Ou alors le dock sur macOS, je le passe en transparent. Donc toutes les icônes sont grises, on va dire, pour simplifier, avec un effet de transparence. Mais du coup, certaines, bon, on les reconnaît, mais on cherche un peu plus, quoi. Il n'y a pas ce côté, tiens, du coin de l'œil, je repère mon application Notes ou mon application Rappel. Là, ces deux exemples, bah, celles-là, elles sont presque pareilles quand tout est transparent. On cherche, en fait. Alors, donc voilà, s'il y a d'autres choses un petit peu comme ça, où je trouve que c'est un peu forcé, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, peut-être avec l'histoire des boutons transparents. Je trouve qu'il y a un côté, voilà, on force un peu la dose et des fois, pas pour des raisons très, très évidentes, c'est plus le ça fait joli, quoi.
Ah, ça dépend des systèmes. Si tu prends iOS, macOS, c'est très visible. Si tu prends watchOS, par exemple, c'est
oui,
dur de le voir.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et toi, Baptiste, t'en penses quoi ?
Alors moi, le Liquid Glass, j'ai eu l'occasion, lors de l'atelier au Developer Center, d'avoir un peu un deep dive par Apple sur le pourquoi de tout ça. L'apparence extérieure, pour moi, ça va être fine-tuné comme iOS 7 a pu l'être, comme Aqua a pu l'être. Donc, ce n'est pas sur quoi il faut se focus pour le moment. Je pense que jusqu'à septembre, il y aura beaucoup d'évolutions. On l'a déjà vu avec le Control Center. Non, moi, ce que je retiens surtout de Liquid Glass, c'est la réflexion qu'il y a eu derrière de laisser la place au contenu des apps, au contenu de ce que l'utilisateur va consulter sur son écran. Donc, par exemple, Safari, la barre de navigation et toutes les options disparaissent dès qu'on scroll, etc., qui laissent pleine part au contenu. Pareil pour les tab bars qui étaient jusque-là assez omniprésentes dans les applis iOS qui prenaient pas mal de place vers le bas. Mais maintenant, dès qu'on va scroller ou consulter du contenu, elle va un peu se minimiser, prendre moins de place et laisser pleine part aux fonctionnalités de l'application. Donc je pense que c'est vraiment cet état d'esprit d'Apple de dire on va encore plus loin vers ce qu'était l'iPhone à l'origine, c'est-à-dire qu'au début, Steve Jobs, quand il a présenté l'iPhone, c'était regardez tous ces téléphones qui ont des boutons fixés dans le plastique. Nous, on s'en débarrasse et on fait un écran de verre pour afficher exactement ce qu'on veut. Et au final, on s'est retrouvé avec ces tab bars et ces nav bars dans les applications iOS qui devenaient un peu ces boutons fixés dans le plastique, c'est-à-dire que c'est des éléments d'interface mais qui étaient figés sur l'écran, qui n'avaient pas vraiment de valeur ajoutée à tout moment quand on voulait l'utiliser. Donc je pense qu'ils sont allés encore plus loin dans ce que voulait être iPhoneOS au début et iOS par la suite, c'est-à-dire que laisser pleine part à la fonctionnalité de l'appli et à la raison d'exister de cette appli et un peu devenir un peu plus discret sur vraiment les boutons et tout ce qui est interface qui ne sont pas utiles à l'instant T pour l'utilisateur et faire apparaître justement ce contenu au bon moment. Donc ça, c'est pour moi, c'est toute la réflexion qui a été derrière Liquid Glass ça va aussi paver la route pour toutes les futures interfaces, notamment sur le Vision OS qui a été le premier bon exemple et dont s'inspire beaucoup Liquid Glass. Je pense que ça va permettre les interfaces du futur sur des devices qui n'existent pas encore et qui pourraient justement faire apparaître ces éléments d'interface au bon moment quand l'utilisateur en a besoin.
Oui, c'est qu'aussi, il faut aussi effectivement se projeter sur ce qui est fait aujourd'hui, c'est fait effectivement, évidemment pour le matériel qu'on utilise aujourd'hui, puis qui est sorti il y a 2-3 ans, mais ils savent aussi vers quoi ils vont au niveau matériel, donc ils se projettent aussi vers des matériels qu'on ne connaît pas encore, et c'est aussi fait dans cette optique. Mais c'est plus qu'il y a des moments où je trouve qu'il y a un côté peut-être gratuit, je suis d'accord avec tout ce que tu disais, mais par exemple, tu vois les boutons, tu vas dans les réglages, par exemple, tu as une réglette, un bouton de curseur, quoi, pour régler un volume ou autre. Mm-hmm. Bon, quand tu le vois, il est ce bouton blanc fixe comme on connaît d'habitude, tu appuies, hop, il se transforme en une sorte de goutte d'eau, oui. Il devient transparent. Et puis, c'est très chouette, l'effet derrière de réfraction, tout ça est très bien fait, mais tu te dis, mais pour le coup, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est pas un peu gratuit? C'est pas juste pour faire joli? Et là, je vois pas trop c'est joli, mais bon, c'est peut-être juste pour être cohérent avec le reste. Mais tu vois pas trop ils ont fait un truc comme ça, je vois pas trop
l'explication d'Apple derrière les sliders qui deviennent transparents sur le curseur. C'est pouvoir voir très précisément la valeur que l'on souhaite mettre derrière.
Ouais.
Donc ça, c'était l'explication. Après, oui, forcément, ça permet d'appuyer la direction artistique vers laquelle ils vont pour dire, un slider, on aurait laissé le point blanc, mais juste avec un effet un peu glacé autour, bah ça aurait fait bien. Mais basique, là, c'est un peu le côté différenciant. Et je pense aussi que Apple veut montrer la puissance de ses puces et du hardware qui est fourni, et ce côté haut de gamme des performances de l'iPhone qui fait qu'ils peuvent se le permettre, et que sur d'autres devices plutôt du marché en face chez Android, bah, certains devices d'entrée de gamme ou autres pourront pas se permettre toutes ces petites fioritures visuelles et du coup appuyer le côté haut de gamme de l'iPhone.
Ah oui, tout à fait. Puis après, bon, il y a peut-être l'idée de l'iPhone, c'est un objet largement fait en verre, il y a l'écran vert, donc on va dans cette logique-là. Mais c'est vrai qu'il y a des. Enfin, on verra comment ça évolue d'ici septembre, et puis après peut-être. Mais le coût des notifications, par exemple, sur l'écran d'accueil, moi, j'ai encore des problèmes, quoi. Et je prends même pas de lisibilité, c'est-à-dire c'est très transparent, c'est écrit en blanc sur un fond transparent. Et derrière, je mets même pas un fond d'écran bien compliqué histoire de piéger l'interface. Je prends celui d'Apple, je me force à utiliser celui d'Apple. Et là, tu te dis, il y a des fois, bon, j'ai pas les yeux de quand j'avais 20 ans, mais tu dis, attends, je vois rien. Donc alors tu fais défiler un petit peu plus haut parce qu'il y a des fois, il y a des endroits où après ils s'opacifient un petit peu plus. Donc tu sens qu'il y a des choses qui sont encore en train d'être faites. Mais sur Mac, par exemple, là, je suis en train d'ouvrir le centre de notification. J'ai une notification, elle est super lisible, un peu plus dans l'esprit de ce qu'il y avait avant avec un fond assez opaque. C'est écrit en noir sur un fond opaque, il n'y a pas de transparence. Par contre, dessous, tous les widgets sont super transparents. Bah, la notification, je la lis très bien. Dessous, j'ai des horloges du monde entier, la météo. J'ai des fenêtres dessous. Ça demande un peu d'attention, ça demande plus d'attention, c'est ça le truc. C'est que ça te demande parfois un effort, plus d'effort pour déchiffrer un petit peu ce que tu as à l'écran.
Ouais, tout à fait. Mais je pense que tout ça va se régler.
Oui, voilà.
Ça va s'uniformiser au bout d'un moment. Et
Ouais.
C'est
On l'a vu
quoi?
de toute façon avec, on l'avait vu avec Aqua, c'est qu'on était parti d'un truc qui était très, enfin c'était très rigolo. Et puis je sais pas si ça a été vraiment fait comme ça, mais au début on avait des iMac très colorés, ça collait très bien avec cette interface. Et puis les iMac sont allés vers du métal, vers plus d'aluminium. Puis les interfaces se sont opacifiées. Il y avait des effets de matière. Il y a une sorte d'évolution un petit peu comme ça qui allait un petit peu en parallèle le matériel et le logiciel. Donc on verra.
Et sans parler d'interface, Baptiste, c'est quoi l'annonce qui t'a le plus enthousiasmé en tant qu'utilisateur?
En tant qu'utilisateur, j'aime bien les nouvelles features Apple Intelligence du téléphone pour mettre en attente quand on est en hold par un service après-vente ou quelque chose qui permet d'attendre pour soi. Et
Ouais.
le fait d'avoir un call screening aussi pour que la personne décline son identité avant de pouvoir répondre, ça c'est des fonctionnalités que j'avais aimées que Google avait annoncées l'année dernière et qui ont été implémentées cette année. Donc voilà, tous ces petits refinements, il n'y a pas la killer feature. Pour moi, Apple veut pousser le liquid glass, donc ils ne sont pas mis en face à quelque chose de trop important en termes de feature utilisateur. L'utilisateur en aura déjà largement assez visuellement. Et toutes ces petites fonctionnalités un peu partout dans l'OS qui permettent de simplifier la vie de l'utilisateur, pour moi, c'est la grosse valeur du côté utilisateur de cette année de la WWDC.
Oui, c'est exactement ça, parce que juste avant, je regardais les différentes pages où Apple résume les fonctions principales de chaque OS. Et effectivement, comme tu dis, il n'y a pas un truc qui ressort. En dehors de Liquid Glass, il n'y a pas un truc qui ressort, une application, un gros truc qui ressort, voilà, le gros morceau. T'as, à la limite, si Spotlight dans macOS, les gens qui sont des fans de journal, ils l'ont sur Mac et iPad, mais c'est plein plutôt de petites améliorations par-ci, par-là, qui au final, bon, forment quelque chose de pas mal, mais je repassais en revue tous ces trucs et je me disais, bah, ça, j'ai les bêtas depuis, comme toi, depuis la VVDC, et je me suis dit, mais il n'y a pas un truc qui a complètement changé dans mon utilisation du téléphone. À part, comme tu dis, Liquid Glass, où tu joues avec les réglages, tu essayes des trucs. Quelque part, on peut installer iOS 26 et à part l'interface, ne pas être perdu ou se dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont tout changé?
Ouais.
C'est effectivement, comme tu dis, vraiment le look qui apporte la grosse, grosse nouveauté.
Et toi, Florian, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa cette année? Liquid Glass, t'as l'air mitigé.
Oui, mais tu joues tout le temps avec, tu essaies des combinaisons, tiens, j'essaie de grossir les polices sur l'écran d'accueil, j'essaie de mettre en version solide ou transparente. Ouais. C'est plus avec ça que je joue. Il y avait les fonctions de filtrage, de ce dont tu as parlé, Baptiste, de filtrage d'appels, de réponses automatiques ou autres. Alors je me sers pas beaucoup de l'app téléphone, j'ai pas énormément d'appels, donc j'ai pas vraiment pu les mettre à l'épreuve. Et puis j'ai pour tout ce qui est blocage des numéros, enfin de spam, il y a la petite application ça raccroche qu'on ne saurait trop recommander. Alors je sais pas si toi justement dans je me suis rendu compte après j'aurais dû la désactiver, enfin enlever cette application et puis voir un petit peu comment iOS s'est débrouillé tout seul. Mais je sais pas si toi tu as pu avec téléphone tester un petit peu ce côté je filtre les appels, il m'écarte ce qui est du spam ou...
Si, j'ai pu tester parce que notamment sur mon... j'ai installé la bêta uniquement sur un téléphone professionnel que j'utilise dans le cadre justement qui est dédié à ça, d'avoir les bêtas. Et mon numéro professionnel tombe souvent dans les mains de spammers et donc du coup 96% on va dire des appels que je reçois sont des spams. Donc le call screening marche très bien parce que là ça demande de s'authentifier et... Bon, des fois, vu que mon téléphone est en anglais, pour pouvoir, tout bon développeur, je l'ai mis en basique en anglais. Et là, ça me fait des traductions anglaises, mais avec une voix française, et du coup, ça fait un peu n'importe quoi. Mais en gros, dans mon cas d'usage personnel, par la suite, quand ça sera français pour français, ça sera très utile. Là, ça a marqué n'importe quoi, mais ça permet de raccrocher quand même et de dire, j'en veux pas. Ça reconnaît certains mots qui sont des anglicismes, mais voilà. Et je pense que tout bon utilisateur d'iOS qui reçoit beaucoup de spam ces derniers temps, et c'est une feature qui arrive au bon moment.
Je l'ai testé, j'étais assez mitigé, moi. Par exemple, j'attendais un appel d'une personne, c'était mon agence pour mon appart, qui m'ont appelé avec un 06 qui n'était pas enregistré dans mes contacts, et du coup, en fait, elle a eu le call screening, donc c'est une petite voix qui demande « Qui êtes-vous ? Donnez-moi des informations. » Et je pense que ça lui a fait peur, elle a dû croire que c'était un faux numéro, du coup elle a raccroché, elle a pas laissé de message.
Ah bah oui, ouais.
Et je me dis, ça, ok, les spammers vont... ça va les bloquer, mais ça peut aussi bloquer certains numéros de personnes bien intentionnées.
Oui, parce que le principe est peut-être pas... le principe n'est pas encore...
Oui, voilà, c'est ça. Dans quelques années, ça ira, mais pour le moment, il faut le temps que ça se démocratise un petit peu.
C'est pas encore rentré dans les mœurs de tout le monde.
Voilà, ouais. Et le détecteur de mise en attente, alors je l'ai testé, j'étais assez content, je me suis dit, tiens, ça c'est un truc, souvent je dois appeler des plateformes ou quoi, où on est mis en attente pendant 30 minutes, c'est assez embêtant. Et en l'essayant, je me suis rendu compte qu'en fait, dès qu'il y a un message enregistré qui passe, il considère que la personne en face a décroché. C'est-à-dire que si c'est un standard avec juste une musique, il te laisse en attente. Et s'il y a un petit message automatique, genre on va bientôt vous répondre, restez en ligne, là il considère que la personne a décroché, donc ça t'a une petite alerte qui te dit prenez votre téléphone tout de suite, il y a quelqu'un en ligne. Et donc ça dépend chez qui on appelle. Donc sur certaines plateformes, il n'y a qu'une musique, donc là ça marche très très bien. Et d'autres chez qui tu as un message toutes les 30 secondes, et là ça sert plus ou moins à rien.
Ils ont déjà trouvé la faille.
Ouais, c'est ça. Donc faudra voir si Apple arrive à corriger ce truc là sur le long terme, mais ça me semble assez compliqué. Donc on verra ce que ça donne. Florian, ouais, d'autres nouveautés peut-être qui t'ont plu?
Non, il n'y a pas de choses.
L'abjeu?
Vraiment, non, alors ça je m'en sers pas. Il n'y a pas de choses marquantes. L'app exercice a été pas mal refaite sur la montre. Il y a des fonctions de traduction directe, mais j'ai pas eu l'occasion de pouvoir les tester. Ah bon, c'est des choses qui vont se tester là au fur et à mesure sur la longueur.
Pour exercice, j'ai eu un truc pas mal. C'est hier, j'ai été faire du sport et il m'a automatiquement suggéré le sport, parce que je fais tout le temps que deux sports, je fais elliptique et renforcement musculaire. Et en arrivant là-bas, il m'a montré un petit raccourci en me disant voulez-vous lancer exercice elliptique alors que j'étais pas en train de faire l'exercice.
D'accord.
Ça, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, ouais. Il faudra peut-être qu'on en reparle d'ailleurs. Baptiste, en tant que développeur, qu'est-ce qui t'a le plus marqué toi cette année? Il y a des nouveautés côté API ou des outils que tu as déjà envie d'essayer?
Alors, les Foundation Model Framework, là, c'est très intéressant de pouvoir accéder à des IA inclus dans le système qui n'alourdissent pas l'appli et qui permettent de faire des petites fonctionnalités. Donc là, on est en train de chercher les use cases qui pourraient nous aider et aider nos utilisateurs à utiliser l'application.
Et puis c'est gratuit.
C'est gratuit, ça n'a pas de coût. Ça utilise un peu plus la batterie de l'utilisateur, donc faudra faire gaffe aussi à ne pas en abuser. Parce que forcément, faire tourner un modèle et lui demander... de nous répondre en local, ça n'utilise pas de network ni de facturation pour un modèle externe, mais faut penser à la batterie de l'utilisateur, donc ça va être aussi une des problématiques. Après, ça touche à un petit un petit public pour l'instant parce que c'est réservé à tous les modèles d'iPhone compatibles Apple Intelligence qui ne sont pas encore la majorité des modèles dans la nature, mais ça va nous servir de plus en plus dans les années à venir. Donc ça, c'était la nouveauté qu'on attendait. Après, il y a toujours les autres API comme la Live Translation qui est accessible aux développeurs. Ça l'était déjà pour du texte, notamment chez Decathlon. On fait des recherches pour traduire les avis clients dans tous les pays, par exemple. Là, ça va permettre aux applis qui font de la VoIP et tout de pouvoir s'en servir en live. Et après, il y a tout ce qui est connexion avec les App Intent, donc connexion avec tout l'écosystème Siri, Spotlight, Widget, etc. Pour toutes les applis, nous, on commence à l'utiliser un peu également dans nos apps, mais ça s'enrichit tous les ans, donc il y a toujours des nouveaux use cases à trouver. Et donc, c'est très intéressant. Donc ça, c'est plutôt côté iOS, et bien sûr, il y a le Liquid Glass qui va demander un peu de travail. Donc pour l'instant, on peut s'en passer pendant un an. Donc on peut sortir, dire je veux l'ancien système pendant un an. Donc Xcode 26 aura une petite case à décocher si on ne veut pas le nouveau style. Mais d'ici un an, ça sera obligatoire. Et Apple me l'a bien rappelé dans l'atelier où j'étais hier à Apple Paris.
C'est-à-dire, donc, si tu pour dire ce que ça expliquer ce que ça signifie concrètement pour vous, c'est que là, pendant un an, tu peux dire on ne travaille pas sur nos interfaces, on consacre pas de ressources à ça, mais dans un an, si tu veux, quand tu compiles ton interface, elle va forcément enfin ton interface, ton application, elle va forcément adopter
le Liquid Glass, là.
Donc tu peux dire là, actuellement, tu peux dire j'en veux pas,
Tu peux t'en
je
sortir
veux
pendant
juste.
un an.
D'accord.
Le temps d'y travailler et d'avoir vraiment quelque chose de chouette. L'année prochaine, par contre, Xcode 27 ne permettra plus ça.
D'accord. Et justement, comment ça marche dans voilà, vous avez plein de frameworks qui arrivent, plein de nouvelles API, etc. Comment est-ce que vous faites le tri en disant, tiens, ça, on va y consacrer des ressources, ça, on va pas y consacrer des ressources. Des fois, tu as des gros éditeurs, tu dis, mais ça fait 6 mois qu'il y a des widgets sur Mac ou sur iPhone, ils ont toujours pas sorti un widget, alors que ça paraît hyper simple à faire. Enfin, et comment, sachant que vous avez des produits qui fonctionnent aussi sur Android, est-ce que des fois vous dites, ah, ça serait pas mal, mais on peut le faire que sur iPhone ou que sur Android, et on le fait pas, ou si on le fait, mais il y aura que les utilisateurs de l'une ou l'autre des plateformes qui s'en serviront. Comment vous faites un peu votre tri à l'issue des conférences des développeurs, de Google et d'Apple qui se déroulent à peu près en même temps?
Alors, ça, c'est totalement mon rôle chez Decathlon. C'est-à-dire que moi, en sortant de la dub-dub, je réunis toutes les nouvelles technologies. Je pioche dans celles que je pense pertinentes pour les applications. J'essaye de faire des proof of concept, donc des petites applications qui pourraient prouver l'utilité pour l'utilisateur final pour une ou autre application de Decathlon. Et je passe dans chaque équipe avec des propositions la plupart du temps pour dire voilà ce qu'on pourrait faire. Et après, il suffit de convaincre les. Bon, il suffit avec des gros guillemets de convaincre les équipes produits de mettre ça dans leur priorité. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que au plus tôt on attaque ces sujets-là, en tout cas on en a connaissance et les équipes en ont connaissance, au plus tôt ça peut être priorisé et justement répondre à une future problématique. Par exemple, Liquid Glass, bah, certes on peut s'en passer pendant un an, mais d'ici c'est un an, bah voilà, on n'aura plus le choix. Donc autant attaquer, en avoir connaissance tout de suite et même les nouveaux développements pourront en prendre connaissance et dire on le fait tout de suite bien pour Liquid Glass.
Parce que les applications que vous avez chez Decathlon, pour résumer, il y a peut-être des applications internes, mais en gros, ça recouvre moi, j'ai vu celle qui a tous les exercices pour les gens qui veulent faire un peu de sport, l'équivalent un petit peu de Fitness Plus. Mais vous avez quel type d'application chez Decathlon en interne comme en externe?
Alors, en interne, bah, la plupart du temps, on est éditeur de nos applications, hein, sur 90% de nos applications. Donc, il y a l'appli Decathlon Shopping, forcément la e-commerce, qui est notre appli la plus téléchargée, qui est la plus avancée aussi techniquement. On a Decathlon Coach, donc là, qui est plus dédié au fitness, mais pas forcément pour les athlètes poussés, mais plus pour de tout
Tout le
niveau,
monde,
tout niveau.
ouais.
On a Decathlon Outdoor qui un peu comme All Trail, qui se dédie à la randonnée et au sport d'extérieur. Donc là, pour l'instant, c'est randonnée, mais ça va s'ouvrir à plusieurs types de sports extérieurs. Et après, on a plus les applications typées produits. Par exemple, on a un panier de basket connecté. On a une application dédiée pour ce panier de basket.
Oui, d'accord.
On a une appli pour les vélos connectés qui permet de localiser son vélo, savoir s'il a été bougé ou autre. Voilà, donc on a plein de petites applications. Au final,
Compagnon, ouais.
l'écosystème d'appli, on en a une quinzaine, en tout sur l'App Store.
D'accord. Et vous faites du coup, quand je parlais des différences entre Android et iOS, quand une fonction existe d'un côté mais pas sur l'autre, bah vous faites quoi? Vous n'utilisez pas ou vous dites bah si, bah l'app Android pourra faire ça, celle sur iPhone, tant pis, elle ne le pourra pas? Ou est-ce qu'il y a une équivalence vraiment, il faut que ça soit pareil
Alors ça, c'était Decathlon il y a quelques années où les deux périmètres se devaient d'être strictement identiques, même au niveau du design. On a travaillé avec les équipes sur tous les. Bah, ça fait bientôt 7 ans que je suis chez Decathlon, donc au fur et à mesure, on a infusé un peu cette connaissance du mobile qui était pas trop adressée chez Decathlon, et on s'est dit, bah pour le design système qui s'appelle Vitamine chez nous, on s'est dit, bah pour le look de l'application des applications iOS, ça partira plutôt directement vers les Human Interface Guidelines d'Apple et on part de là. Et pareil, on va se faire du matériel chez Android. Bah là, c'est en gros en termes de features. Quand un équivalent existe, bien sûr, on fait les deux on essaye d'être synchronisé sur les sorties. Mais quand il y a une feature vraiment différenciante et plus qualitative d'un côté que de l'autre, on ne se prive pas d'avoir la feature. Par exemple, un exemple concret, Apple est beaucoup plus avancé en termes de réalité augmentée sur les smartphones que Google. Qui a laissé un peu. Donc, ça s'appelle AirKit et Reality Kit sur iOS et AirCore sur Android. Google a un peu délaissé AirCore ces dernières années au bénéfice de l'IA, etc. Ils sont allés vers d'autres chemins. Et pour tout ce qui est expérience de réalité augmentée sur des produits, donc par exemple, on va sur la page produit d'une tente, donc des produits assez volumineux, on veut voir ce que ça donne. On a un bouton dédié maintenant dans l'application Shopping qui permet de balancer la tente dans son jardin pour voir les vraies dimensions et se balader à l'intérieur avec son iPhone, son iPad ou son Vision Pro.
Qui est assez pratique, parce qu'au début, on peut le voir un peu comme un gadget, mais dans certains cas, quand tu es vraiment intéressé par un produit, et comme tu dis, il y a des questions de taille, de rapport par rapport à d'autres produits, tu veux acheter une chaise,
Tout à fait.
est-ce qu'elle va être plus. Bah, finalement, c'est pas si mal. Et
Voilà.
maintenant, on arrive à des résultats, j'ai l'impression qu'ils sont assez fiables, des rendus qui sont aussi pas mal. Alors, je sais pas si vous avez un moyen de vérifier que les gens utilisent beaucoup cette fonction, mais ça peut être assez, assez pratique, ouais.
Alors, on voit, en fait, c'est assez organique, on voit que les. Donc voilà, pour finir sur le sujet qu'on était en train d'adresser, sur iOS, c'est quand même beaucoup plus performant que sur Android sur ce sujet-là. Bon, on a choisi au début d'aller uniquement sur iOS sur ça, et maintenant on essaye de s'adapter pour voir ce qui marche sur Android. Mais voilà, on n'a pas attendu que les deux soient
Oui,
équivalents.
à égalité, oui, d'accord.
Et en termes
Très bien.
d'utilisation de la feature, bah au final, on voit que c'est assez organique parce qu'au fur et à mesure, dans le classement des produits d'investissement qu'on appelle chez nous, donc les produits volumineux assez chers pour l'utilisateur. Les produits équipés de 3D sur leur page produit remontent dans le classement des produits les plus vendus au fur et à mesure de l'année et des
D'accord.
saisonnalités. Et du coup, ça nous permet de dire que bah, la 3D, ça marche et que ça booste le niveau de transformation et de réassurance de l'utilisateur de dire bah, c'est vraiment ce produit-là que je souhaite.
Ok.
Florian, la grosse nouveauté cette année, c'est qu'Apple ne va plus proposer ses nouveautés au compte-gouttes. On devrait tout avoir à la sortie ou presque, là où c'était beaucoup plus fragmenté auparavant.
C'était plus. Alors peut-être que Baptiste aura eu un peu des échos dans ce sens-là. Ils l'ont peut-être pas dit clairement là-bas, mais la façon dont ils présentaient les nouveautés, ils avaient l'air. Ce qui semblait être dit, c'était que ils n'allaient pas dire tiens, voilà, on a cette nouvelle fonction parmi d'autres, mais elle n'arrivera que d'ici la fin de l'année, on vous la montre, mais disponible automne 2025. Et ça a l'air d'être plutôt, on vous montre uniquement ce dont on est sûr, bah, ça sera prêt en septembre, en gros. Après, il y a des différences, il y a des pays, comme d'habitude, qui ont la fonction, d'autres qui ne l'ont pas. Mais c'est plutôt, voilà, tout ce qui est sur la table, vous pourrez vous servir en septembre. Et il y aura bien évidemment des nouveautés, des petites fonctions, des améliorations au fil de l'année. J'avais vu un article qui avait fait un décompte entre iOS 18.0 et iOS 18.3. Donc entre septembre et février, il y avait eu 50 ajouts, plus ou moins gros. Parfois c'est juste un petit bouton, parfois c'est quelque chose un peu plus significatif. Donc ça, je pense qu'on l'aura toujours. Et Apple, on faisait pas forcément la publicité non plus avant. Il y a des fonctions qu'on découvre, on dit ah tiens, ils ont ajouté ça dans cette bêta, waouh. Mais là, il me semble à la WWDC, je passe l'impression qu'on a eu Baptiste, mais c'était vraiment Ben voilà, ce qu'on vous montre, ben vous l'aurez en septembre. Pas de promesses sur le long terme.
Oui, c'est le sentiment que j'ai eu aussi. Ils n'ont pas répété l'erreur de l'année dernière, on va dire. Et les seuls later this year que j'ai vus dans les slides, c'est vraiment les outils développeurs qui arriveront pour tout ce qui est App Store Connect, donc la plateforme pour publier les applications, qui souvent est mise à jour à la sortie des OS. Donc vraiment, il n'y a pas de bêta du site web. Donc, c'est les seules choses que j'ai vues en later this year, et c'est comme Apple, c'est tous les ans comme ça. Donc oui, Apple s'est vraiment tenu à qu'est-ce qui est prêt ? Voilà la liste, et ben, on vous le donne dans les bêtas, et c'est ce que vous aurez en septembre.
Voilà, oui.
Je me demande si du coup on aura des surprises un peu au fil de l'eau, parce que Google, par exemple, maintenant, ils ont tendance à plutôt mettre à jour leurs applications plutôt que directement mettre à jour Android. Et là, Apple, c'est vrai que s'il n'y a rien de neuf entre la sortie d'iOS 26 et la WWDC de l'année prochaine, ça risque de faire un moment...
Ouais, mais je vois pas pourquoi ils s'interdiraient de sortir des choses, mais de dire, voilà...
C'est pas trop ce qu'ils font habituellement, non ?
T'as toujours la 18.2, enfin la 18.2, la version 0.2 ou 0.4, où il y a toujours un petit peu de... qui sont des fois plus ou moins importantes.
Ouais.
Mais là, ça reste, oui, c'est resté assez concret, je trouvais. Ils ont quand même reparlé d'Apple Intelligence, mais en disant, voilà, tel endroit, c'était pas des fonctions... on se dit, vous les aurez un de ces jours. Ouais. Donc c'était assez les pieds sur terre, en fait.
Baptiste, tu penses qu'Apple a bien rattrapé son coup cette année niveau IA ? Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveautés pour Apple Intelligence ? Des choses que toi, tu vas pouvoir utiliser, du coup ?
Alors, côté IA, je pense qu'Apple, justement, ne s'est pas trop pressé de dire on va rattraper à tout prix, comme ce qu'ils avaient pu dire l'année dernière, à mon avis, pour faire plaisir aux investisseurs et rassurer.
Ouais.
Là, en gros, c'est un peu ce qu'on a dit précédemment. C'est un peu, ils ont saupoudré un peu d'Apple Intelligence un peu partout, mais pas des énormes features. Et tout ce qui va être accessible, bah, en gros, maintenant, on a accès au modèle directement. Donc, c'est bien, mais on n'a pas vraiment les paramètres de ces modèles. Donc, on verra les résultats qu'on a en testant directement. Mais il n'y a pas de spec technique comme peut avoir les modèles open source ou autres qui nous donnent une idée de ce qu'on pourrait en tirer. Donc là, ça va vraiment être de l'expérimentation. Et voilà, donc après, je pense que le gros coup d'Apple Intelligence arrivera vraiment en même temps que le futur Siri qui a été relancé dans les cordes pour mieux revenir. Et voilà, donc moi, en tant que développeur, dans ce que je vais utiliser, c'est vraiment les App Intent qui vont permettre d'accéder à des choses comme Apple Intelligence et les modèles directement incorporés dans iOS.
Ouais. Apple a porté pas mal de ses apps sur d'autres plateformes cette année. Est-ce qu'il y a du nouveau, Florian ? Tu t'en sers un peu
Je ne me sers pas de toutes, mais par exemple, ils ont mis Journal sur Mac et sur iPad.
Ça, c'est chouette. Ouais.
Ça, c'est... Alors, pour ceux qui l'utilisent, oui, parce que c'était assez incompréhensible. À la limite, au début, il est sorti uniquement sur iPhone. C'était assez incompréhensible qu'il ne sorte pas sur les trois plateformes. Et à la limite, j'aurais presque même vu sur iPhone et sur Mac, parce qu'on peut être sur son MacBook à droite, à gauche, et puis vouloir faire une entrée dans son journal. Peut-être plus facilement quelque part que sur iPad, où c'est un peu plus... Il faut un clavier, etc. Et là, au moins, on a les trois versions. Notes sur l'Apple Watch. Alors, notes sur l'Apple Watch, ça permet évidemment de consulter les notes qu'on a sur son iPhone, et puis aussi d'en saisir, soit avec le petit clavier, si c'est vraiment trois mots, sinon avec la dictée vocale. Alors, bizarrement, moi, j'utilise vraiment notes beaucoup. J'ai énormément de... Je mets plein de choses très différentes dedans. Et ça m'avait jamais manqué sur la montre. Alors, peut-être que c'est parce que j'ai dans l'idée que Note, il faut toujours un grand écran un petit peu pour vraiment l'exploiter. Mais ça peut être quelque chose qui manquait à d'autres personnes. Il y a l'application jeu, l'application aperçue aussi sur iOS. Alors ça, c'est marrant parce que l'application aperçue donc, qui existait sur Mac, il y avait une rumeur en 2014 pour iOS 8 d'un portage d'aperçu et de text edit sur iPhone. Et puis on a complètement oublié, puis là l'application aperçue arrive, donc ça permet de manipuler des PDF un peu comme on le fait sur le Mac, mais avec il y a pas mal de fonctions qui sont pas passées du Mac à l'iPhone, et surtout on a fait un article qui expliquait un petit peu à quoi ressemblait justement aperçu version iOS, et pas mal de lecteurs disaient assez justement, mais en fait ils ont repris coup d'œil, qui faisait déjà énormément de choses, la fonction coup d'œil sur iPhone, qui permettait de voir le contenu du PDF, voir le nombre de pages, faire des rotations, enfin, il y avait même des outils d'édition. Donc ça a été présenté vraiment comme une nouvelle app sur iPhone, mais c'est plus une sorte de repackaging d'un service système qui existait et qui a fait 2-3 choses de plus, mais ouais. Voilà, c'est, on n'est pas passé de rien à aperçu sur iOS. Ouais.
Baptiste, il y a eu de gros changements dans la gestion des fenêtres d'iPadOS, t'as pu tester un petit peu, ça te semble convaincant ?
Alors, j'ai pu tester sur mon bon vieil iPad de 2018, iPad Pro de 2018, qui survit à la mise à jour de cette année. Je ne pensais pas avoir iPadOS 26 sur ce modèle, mais au final, il est dispo. Et la gestion des fenêtres est disponible aussi dessus, donc voilà, c'était une bonne nouvelle, parce qu'ils ont, à mon avis, voulu maximiser le nombre de modèles avec cette nouvelle feature. En tout cas, c'est mieux que ce qui avait été fait précédemment, là. Je sais même plus le nom tellement je m'en servais pas avec le fait que ça mette
Stage
les...
Manager, non
Stage Manager, ouais, c'est ça. Mm. Je m'en suis jamais servi. Là, j'ai essayé. Donc, ça permet de faire un peu de multitâche. Ça permet de passer, par exemple, à côté du mode Picture-in-Picture de YouTube Premium et de pouvoir mettre l'appli YouTube en petit sur le côté, même si on n'a pas le Premium. Donc, ça permet d'enrichir l'expérience de l'iPad. Après, j'ai trouvé le nouveau curseur que tout le monde était content d'avoir sur iPadOS à la macOS, un peu petit. Je trouvais bien que l'ancien rond était un peu plus présent et mettait bien en avant que c'était avant tout une expérience tactile sur ce genre d'équipement. La gestion des fenêtres, je la trouve assez convaincante avec les gestures de les mettre sur les côtés, etc., qui prennent la bonne taille. Ça va, à mon avis, prendre un peu de temps à masteriser et même, je pense qu'on aura des changements dans les bêtas. Mais voilà, ça, moi, en tout cas, depuis ce nouveau mode, j'en fais plus avec mon iPad.
Ok.
Donc ça te donne envie d'en acheter un plus performant.
On va attendre le Pro M5 pour craquer.
Comme chaque année, Apple a ajouté des fonctionnalités qui viennent complètement piquer la place d'applications bien implantées. Florian, tu nous as fait un petit listing. Il y a beaucoup de développeurs qui se sont fait avoir cette année.
Il n'y a pas forcément des applications qui sont mises hors jeu, ou à part peut-être Notes sur iPhone, Notes sur Apple Watch, mais ouais. Les applications en face n'étaient pas des grosses applications forcément très connues, donc ça ne changera peut-être pas grand-chose pour leurs développeurs. Après, c'était plus, par exemple, il y avait Spotlight sur macOS 26 qui a gagné pas mal de fonctions qui se rapprochent un peu des lanceurs plus sophistiqués qui existaient comme Recast, Alfred ou Launchbar. C'est pas, ils font pas exactement la même chose. Les autres, c'est toujours un peu ça, c'est que les autres en font toujours beaucoup plus. Mais est-ce que ce que propose Apple ne va pas suffire à pas mal de monde? Probablement. Et puis dans cette fraction d'utilisateurs, il y en a qui se diront peut-être, ah mais ouais, c'est pas mal, mais j'aimerais pouvoir faire ci. Ah bah il y a des shareware qui permettent de faire ça, donc ils se tourneront vers ces applications. C'est toujours un peu le vœu que forment les développeurs quand ils voient que des fonctions clés de leur logiciel ou carrément leur logiciel était un peu repris par Apple, c'est de se dire ça va donner une visibilité à mon application. Faut peut-être toucher du bois, mais voilà, c'est toujours un peu le pari qu'ils font. Il y avait aussi par exemple PasteBot et Paste qui sont des applications qui permettent d'archiver un peu ce qu'on met dans son presse-papier quand on fait des copiers. Mmh. C'est-à-dire que ça disparaît pas à chaque fois qu'on refait notre copier, on a la liste de ce qu'on avait fait précédemment. Ben ça, le nouveau Spotlight permet de le retrouver. Xcode, il y a un utilitaire qui s'appelait Alex. Alors je connais pas trop tout ce qui est Xcode, mais qui faisait des choses qui permettaient de brancher un peu des IA sur Xcode. Et le nouvel Xcode a l'air de permettre de le faire un petit peu tout seul. La barre des menus dans macOS où on peut, là il y a des fonctions simplement pour forcer les, pour éviter que des applications mettent leur petit menu dans la barre des menus. Donc ça, il y a des applications qui, comme Bartender ou Ice, qui permettaient justement de faire un peu ce ménage. Elles en font, là aussi, elles en font un petit peu plus, donc ça peut les gêner ou au contraire leur donner une visibilité. Et puis des trucs tout bêtes comme coloriser un dossier dans son Finder et ajouter un emoji ou un petit pictogramme dessus. Ça, coloriser un dossier, ça existait depuis toujours sur Mac, puis ça a disparu, c'est revenu. Il y avait des petits utilitaires qui permettaient de le faire. Donc là, eux, a priori, ils sont morts. Mmh. Et puis, on peut citer aussi l'application qui permet de suivre les déplacements en avion, Flighty, Truecaller, qui était une application pour filtrer un peu les appels. Donc, il y en a quelques-unes comme ça. Mais voilà, il y en a assez peu où on se dit, tiens, lui, c'est foutu, ouais. À part des micros applications.
Ok. Baptiste, ça se passe comment l'arrivée de grosses mises à jour là, comme iOS 26 chez Decathlon? Enfin, vous vous intéressez directement aux nouveautés ou ça vient plutôt progressivement?
Alors ça vient, comme je l'expliquais tout à l'heure, plutôt du cas d'usage que de directement. Apple a sorti ça, faut qu'on le fasse absolument. Faut qu'on trouve un cas d'usage pertinent pour nos utilisateurs ou en interne sur les technologies qui permettent de soit économiser en coût sur l'app en termes de d'appels sur les IA ou autres. Ça va arriver petit à petit. La plupart du temps, on essaie de quand même se concentrer sur septembre parce que ça permet d'avoir une belle mise en avant par Apple sur les applications qui adoptent les nouvelles technologies. Souvent, on essaye d'avoir au moins une app avec une nouvelle feature. Donc là, ce sera peut-être tout simplement le Liquid Glass ou des fonctions d'IA auxquelles on aurait pensé.
Mais c'est-à-dire que tu commences déjà à travailler, vous commencez déjà à travailler sur les bêtas avancées, malgré un peu peut-être des bugs, des choses où on se dit, tiens, quel va être le comportement véritable à la fin? Vous avancez là déjà dans les développements ou c'est comme tu disais, on fait des maquettes, on teste et puis on donnera un coup d'accélérateur.
En gros, on a des jours dédiés à ça dans l'ingénierie chez Decathlon, où on a un vendredi tous les mois où chacun peut prendre un sujet qui souhaite à creuser et on creuse. Et donc, ça mène souvent à une implémentation dans l'application derrière. Et donc, ça permet à chacun de dire bah, moi, je suis plus intéressé par l'IA, je vais aller voir plutôt les Foundation Framework. Et d'autres qui sont plus intéressés par l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. On a une équipe dédiée à ça qui fait vraiment tous nos composants pour qu'on ait plus qu'à se servir et que toutes nos applis se ressemblent. Et ben, ils vont plus aller sur Liquid Glass et c'est déjà le cas dès le lendemain de la WWDC quand ça a été présenté, on met les mains dessus directement.
Oui, puis c'est toujours, je suppose que quand il y a une nouvelle interface, c'est toujours le petit truc sympa de manière générale, parce
Oui.
que c'est ce qui change. La dernière fois, c'était dans iOS 7, donc ça remonte. Et à chaque fois, je suppose que c'est voilà, c'est le petit truc sympa côté développement de relooker un peu son app.
Oui, et c'est toujours plaisant pour l'utilisateur de dire bah voilà, j'ai eu ma mise à jour à iOS 26. Je vais aller explorer les applications que j'utilise fréquemment et c'est souvent une déception de voir que certaines n'ont pas changé du tout, on n'a pas adopté la nouveauté. Donc on essaye d'être assez réactif. Tout dépend du boulot, bien sûr, qu'il y a à abattre pendant les mois d'été et surtout avec les absences de certaines équipes,
Oui, c'est ça, c'est
etc.
que c'est pas la bonne période pour
C'est
en
assez
plus pour ce genre
difficile, ouais.
de choses. Ouais.
C'est assez difficile. On voit bien qu'aux États-Unis, ils ont moins de vacances que nous. Et du coup, voilà, eux, ils vont peut-être être un peu plus réactifs. Mais en tout cas, nous, c'est toujours. La communauté iOS de Decathlon est assez passionnée et suit beaucoup toutes ces tendances-là. Et on a des personnes qui vont être dédiées à avancer sur les sujets et à trouver vraiment les meilleurs cas d'usage pour pouvoir faire que l'utilisateur s'y retrouve et des nouvelles fonctionnalités.
Ok, ouais. Et là, on est à quelques jours de la première bêta publique, sans doute. Enfin, là, on enregistre le 1er juillet. Est-ce qu'on peut recommander à nos auditeurs d'installer les bêtas? Florian, c'est stable, toi, sur ton Mac?
Je l'ai installé partout en fait. Moi j'ai donc depuis peu un MacBook M3. Donc je l'ai installé là-dessus. Je l'ai installé sur une Apple Watch Ultra première génération, sur un iPhone 14 Pro et sur qu'est-ce qui reste encore? Sur un iPad mini 6, donc l'avant-dernier. Tout tourne, il n'y a pas des plantages, des trucs très problématiques. Par contre, j'ai 4-5 bugs qui reviennent assez fréquemment. Sur macOS, c'est la barre des menus qui des fois disparaît.
Ah ouais, j'ai pas ça.
Ma fenêtre bute contre quelque chose d'invisible et puis il prend plus les raccourcis clavier, même pour éteindre la machine, c'est compliqué. Donc là, il faut aller dans le terminal, tuer un des process et puis elle revient. Mais ça revient assez fréquemment. Enfin, pas fréquemment, c'est pas toutes les 5 minutes, mais disons une fois tous les 2 jours, il y a ce genre de problème. Sur l'iPad mini, donc un iPad mini 6, la gestion des fenêtres, il y a des moments où j'ai des fenêtres que j'arrivais plus à fermer ou à redimensionner. Donc elles s'étaient ouvertes en tout petit, impossible de la redimensionner. Sur l'iPhone, alors c'est dans WhatsApp en particulier, je tape pas comme un dingue, mais je tape un peu vite, qu'on va dire, et on sent qu'à un moment, ça frise. Quand on tape trop vite, l'application freeze, donc il faut la tuer. Donc, je refais mon message en tapant beaucoup plus lentement et ça passe. Donc ça, c'est un bug un peu bizarre. Et les deux derniers que j'ai pu avoir, c'est pas forcément des bugs, mais sur l'iPhone, il y a des listes parfois. Dans l'application jeu, j'avais ouvert il n'y a pas longtemps, les défilements de listes parfois sont très saccadés. Donc j'ai un iPhone 14 Pro Max, c'est pas un vieux téléphone, mais on sent que là, c'est certainement un problème un peu d'optimisation. Et de temps en temps, quand on joue avec les réglages d'écran verrouillé, avec les transparences, tout ça, on sent que ça chauffe. Il y a des sortes de pics de pics d'activité quand dès qu'on fait des manipulations un peu autour de l'interface. Mais bon, ça, on peut penser que ce sont des problèmes un peu vraiment qu'on voit assez facilement, et avec les bêta publics, on peut supposer qu'ils y seront plus. Mais par contre, sur l'iPad de 2018 ou Ed Baptiste, je me demande si c'est dit, tiens, ça tourne, mais ça tourne comme sur l'iPad de 2018, quoi.
Ça tourne déjà, iOS 18, c'était assez... Il y avait des saccades, etc. Donc voilà, je ne m'attendais pas à un miracle non plus. Ouais. On verra peut-être s'il y a des optimisations par la suite, mais voilà, je n'ai pas trop grands espoirs. Donc moi, personnellement, oui, je l'ai installé sur mon iPad, sur mon Mac Mini M4, sur l'iPhone que j'utilise pour les bêtas, justement, dans le cadre du travail. La Watch, généralement, j'évite parce que si bricage, il faut aller à l'Apple Store et c'est un peu contraignant.
Mmh. Ouais, pas en plus.
Ouais, et donc moi, je déconseille à chaque fois d'installer sur Apple Watch, et notamment là, les Hermès aussi, qui semblent avoir certains problèmes.
Oui.
Donc, bon, j'ai pas la Hermès, je pense que, voilà, pas beaucoup de personnes ne l'ont, mais voilà, ne le faites pas. Et TVOS, j'en vois pas forcément l'intérêt, à part si on veut faire du karaoké en avance.
J'ai installé, mais je me sers des applications de streaming vidéo, donc ça change pas grand-chose. Voilà.
Donc moi, je conseillerais en tout cas d'attendre la bêta publique comme tous les ans pour nos chers auditeurs. L'iPhone, je dirais sans problème. L'iPad, vu que c'est jamais un device principal qui est vraiment crucial, on peut y aller. macOS, à part les petits bugs que j'ai eu aussi, comme Florian, il n'y a pas non plus... J'ai pas eu d'incompatibilité grave des applications que j'utilise, donc en tout cas,
oui, ou pas de plantage, de choses comme ça. Après, ça dépend bien sûr des applications. Peut-être qu'une suite, une Creative Suite, ça ne sera pas pareil, mais bon, pour ce qu'on utilise, nous, j'ai pas eu de crash, de choses un peu inexpliquées.
Ouais, après, je pense que c'est tous les binaires... on va dire optimiser Apple Silicon, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Après, c'est peut-être sur la couche de compatibilité avec ce qu'il y avait eu avant qu'il pourrait y avoir des problèmes. Et les Mac Intel pourront avoir leur dernière bêta.
Ouais.
Parce que c'est la dernière année où macOS pourra être mise à jour sur les Mac Intel. Donc voilà, revendez vos Mac Pro 2019. voilà, donc moi, globalement, je recommande pour tout bon fan des OS d'Apple et avoir les nouveautés en avance d'installer à part sur WatchOS.
Eh bien, merci à vous deux pour ce premier bilan sur les bêtas de iOS 26 et de macOS 26. On espère que ça aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre ce qui les attend en septembre et de motiver ceux qui attendent impatiemment la bêta publique. Baptiste, merci d'être passé, à bientôt.
Merci pour l'invitation et à très bientôt, j'espère.
Florian, à la prochaine.
Oui, à la prochaine.
Et nous, on se dit à très vite pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.